Regarde, Betty, une pâquerette.
C'est un bon endroit pour nous installer.
La pâquerette est une plante très rustique formant des touffes denses. Espèce commune, cycline à calcycline, elle fleurit toute l'année, mais surtout de mars à novembre.
Aura des pâquerettes.
Toutes ces herbes folles.
Engrais. Parfaitement naturel.
On va arroser ça.
Mais non, les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Aura des pâquerettes.
À travers les âges, tradition millénaire, aux effusions techniques, d'innovation, le vin, breuvage ancien, plaisir, nouveau. Des vins antiques, parfois coupés à l'eau de mer pour leur conservation, aux vins médiévaux, macérés aux épices, le vin évolue selon des facteurs commerciaux, techniques, historiques et sociétaux. Il faudra attendre la fin du XIIe siècle pour trouver une diversification de qualificatifs enrichis par des comparaisons. Aujourd'hui, l'expression préférée des vignerons est pour faire référence à l'exceptionnalité de la terre, le mot « terroir ». Le milieu du vin est un mélange entre tradition et innovation. On aurait parfois tendance à le renvoyer du côté du passé, mais tout évolue. Le vin est une construction humaine. C'est un milieu vivant, se réjouit l'auteur Philippe Mézy. Passion millénaire de l'homme, compagnon de diverses civilisations à travers le monde, le vin n'a pas fini d'écrire son histoire, nous confie-t-il. Entre nostalgie des vins d'hier et enthousiasme, ou encore inquiétude pour le vin de demain, le vin ancre des traverses du vivant au fil des saisons de ce monde.
Gaëtan Mélinon. Oui, j'ai repris le domaine familial de ma maman. Donc je suis revenu avec elle à temps plein depuis 2021. Mais bon, j'ai toujours travaillé avec elle. Enfin, depuis que je suis tout petit, je suis vraiment passionné par ça. Je me suis formé dans les écoles Beaujolais-Mâconnais. Puis je suis allé travailler sur Beaune en Bourgogne pendant 5 ans. Me faire un peu une autre expérience. J'ai visité d'autres choses, plusieurs domaines. Et je suis revenu aux terres natales.
Alors Jérôme Corsin, viticulteur et président de l'ODG des crus du Beaujolais, à Julier. Il y a des difficultés, c'est un peu le millésime des excès. On va dire à quelques moments on a eu des excès d'eau et puis surtout sur la fin août des excès de chaleur. Enfin on a eu des excès de chaleur aussi au mois de juin. Donc on a une récolte très hétérogène suivant les exploitations mais plutôt très faible. Donc on parle à peu près d'une demi-récolte par rapport au rendement d'appellation. Voilà, donc c'est une année, par contre, qualitativement, on peut se dire que c'est vraiment très très qualitatif parce que cette chaleur, ben, c'est ce qu'il faut pour la vigne. Mais les pluies sont arrivées un petit peu tard, on a eu des pluies fin août, mais voilà. Après, suivant les secteurs, c'est un peu plus hétérogène, mais il y a des secteurs très touchés avec des rendements très faibles. Alors, depuis quelques années, je pense qu'on a on a beaucoup plus d'hétérogénéité entre les millésimes en volume. On va dire dans les années 80-90, on était, enfin voilà, c'était assez stable d'une année sur l'autre. Et puis maintenant, on a beaucoup d'hétérogénéité suivant les millésimes. On a eu un millésime 2023 qui était plutôt assez abondant, qualitatif, donc c'était très intéressant. L'an dernier, on a fait une très bonne qualité avec une quantité moindre et cette année encore moins. Donc ce qui n'est pas facile, c'est de gérer. Et ben voilà, après, on a des demandes quand même, on ne va pas se plaindre. On a un vignoble qui vend quand même du vin, mais aujourd'hui, on risque d'avoir un peu. Voilà, il y a moins de quantité, donc ça pose problème. Même si on a quelques stocks, hein, c'est des vins qui se gardent forcément quelques années, donc il n'y a pas de souci. On peut boire encore des 22, des 23, il n'y a aucun problème. C'est des vins qui sont très bien aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec une petite récolte, c'est aussi la rentabilité des exploitations. Certains vont être un peu dans la difficulté. Hein, ceux qui ont fait déjà une faible récolte l'an dernier, hein, quelques-uns ont fait une faible récolte l'an dernier. Une seconde faible récolte, ben, ça devient problématique. Ouais.
François Roth, je suis directeur de la cave coopérative Agami.
Agami, c'est
quoi ? L'anagramme de Gamay. Agami, Gamay, Agami. Et c'est une cave coopérative qui est présente sur différents sites. Quincy en Beaujolais, Bully, et également sur les sites de Trollin dans la Loire, où on produit les Côtes du Forêt. Donc on est producteur de Côtes du Forêt, Coteaux du Lyonnais, et toutes les appellations du Beaujolais. Alors, donc là, on vient de finir, on est sur le point de finir la récolte 2025, qui va être une très belle année, par contre en qualité, par contre en quantité historiquement faible, puisque nous, à l'échelle de la cave, on va rentrer à peu près seulement la moitié de notre potentiel de production. Donc, c'est extrêmement décevant, mais bon, après un été aussi chahuté en termes climatiques, on pouvait s'attendre à une baisse de volume. Malgré tout, elle est quand même bien plus conséquente que ce qu'on imaginait. On voit que le végétal a beaucoup souffert et d'un point de vue agronomique, on voit bien que les changements climatiques ont un impact très fort et qu'on maîtrise encore assez mal. Oh non, au contraire, les évolutions climatiques ont plutôt été favorables au Beaujolais. Je dirais que l'idéal, ce serait qu'on s'en arrête là. Pourquoi je dis que ça a été plutôt favorable ? Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui plus de maturité. Alors, c'est lié aux évolutions climatiques, c'est sans doute lié aussi aux vignes qui sont un peu plus vieilles et les productions qui sont plus faibles. Tout ça est un peu lié. Hein. L'évolution de la viticulture en Beaujolais aussi, les efforts faits par les vignerons, c'est évident. Mais clairement, aujourd'hui, on a des profils de vins qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pouvait faire dans les années 90. Et ce qui est d'ailleurs le fait d'un retour en grâce des vins du Beaujolais, puisqu'on voit notamment chez les jeunes consommateurs une appétence pour nos vins qui sont à la fois structurés, mais sur le fruit, agréable à boire, des vins de plaisir. Cette année, c'est un bon exemple, puisqu'il y a eu des pluies début mai qui ont été à l'origine d'attaques de mildiou relativement conséquentes. Or, les modèles qui étaient en place, les modèles prédictifs, hein, qui sont basés sur des données de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, je dirais même, n'ont pas fonctionné, puisque effectivement, les données initiales ne sont plus les mêmes. Donc, un certain nombre de vignerons qui se sont un peu fait avoir à ce moment-là. Donc, on a eu des problèmes de mildiou cette année. Assez peu d'autres maladies, très peu d'oïdium, assez peu de black rot par rapport à ce qu'on pouvait rencontrer d'habitude. Mais par contre, encore une fois, un modèle mildiou qui a assez mal fonctionné au départ. En fait, il faut adapter nos prophylaxies, il faut revoir nos modèles prédictifs pour pouvoir traiter au bon moment, investir dans la recherche pour continuer de trouver des matières actives qui soient respectueuses dans l'environnement mais efficaces sur les maladies de la vigne, c'est évident.
Alors moi c'est Elsa Darlix, donc j'ai fait un stage de 6 mois à la Sicarex et donc j'ai travaillé sur les méthodes d'évaluation du stress hydrique. Donc en fait ce stage il s'inscrit dans le projet Végétaux qui est en collaboration avec la CEMURA, la Chambre d'agriculture d'Ardèche et le RATO. Et en fait le but était de tester différentes méthodes d'évaluation du stress hydrique sur plusieurs espèces. Donc nous sur la vigne, la CEMURA sur le noyer, la Chambre d'agriculture d'Ardèche sur le châtaignier et le RATO sur les plantes ornementales. Et en fait tout ça c'est dans un but de sélection variétale. Déficit hydrique, c'est que la plante se trouve en contrainte hydrique, donc elle n'a pas assez de ressources en eau pour pouvoir se développer, faire son développement végétatif correctement en fait. Donc du coup, on va pouvoir, ça découle un peu sur ma deuxième méthode, qui est la méthode visuelle. Donc en fait, en présence de stress hydrique, on va voir que la vigne va commencer à perdre un peu ses feuilles vont jaunir et finir par tomber. On peut aussi observer un flétrissement des baies, parce qu'il y a moins d'eau, donc les baies vont se flétrir. Et aussi, on peut observer une taille des fruits qui diminue. Et après, on a aussi, du coup, en méthode visuelle, la méthode du suivi des apex. Donc les apex, c'est l'extrémité des rameaux. Et en fait, on les classifie par trois. Donc quand il y a un arrêt de croissance, une croissance ralentie et une croissance active. Et en fait, plus cet arrêt de croissance va être tôt dans l'année, plus ça veut dire que la plante est en état hydrique, en état de déficit hydrique.
Donc ça peut faire du bruit. Une fois que c'est revenu en plus de 10 bars, on rouvre le manomètre. Une fois que c'est vide, on peut enlever la feuille. Et en choisir une autre selon le nombre de répétitions et le protocole de mesure. Voilà, ensuite on éteint la lampe torche et il reste plus qu'à du coup poser la section, parce qu'une fois que c'est bien fermé ici, ça peut faire du bruit.
Sophie Pénavert, directrice de la Sicarex Beaujolais et de l'Institut français de la vigne et du vin en Bourgogne, Beaujolais, Jura, Savoie. Oui, donc notre métier à nous, c'est de faire de la recherche appliquée, de l'expérimentation pour la filière viticole française et spécifiquement en Beaujolais. Sur le changement climatique, on va chercher à avoir deux actions. L'action première, c'est de s'adapter, continuer à produire avec des rendements acceptables, avec des qualités aussi adaptées aux attentes des consommateurs, malgré le contexte climatique changeant. Et la deuxième approche, c'est l'atténuation, c'est continuer à produire tout en contribuant à l'effort de diminuer le phénomène de changement climatique, donc diminuer les gaz à effet de serre liés à la filière vin. En fait, pour s'adapter, on a plusieurs approches possibles. On peut avoir une approche assez court terme qui consiste à simplement corriger en cave les problèmes qu'on a sur les raisins liés au changement climatique, de trop de sucre, donc trop d'alcool potentiel et pas assez d'acidité. Donc là, c'est vraiment l'œnologue en cave qui va agir. Après, on a une série d'actions moyen terme à la vigne où on va essayer de garder de la fraîcheur au pied des vignes avec des paillages, avec des techniques particulières d'ombrage, etc. Et une solution un peu plus long terme qui est celle de changer ce qu'on appelle nous le matériel végétal, c'est-à-dire adapter la plante, le cépage, la variété.
Donc des variétés que vous proposez différentes.
Oui, il y a des variétés, on peut implanter des variétés qui viennent du sud, par exemple, qui sont réputées s'adapter plus au changement climatique. Il y a aussi des variétés résistantes qui ont été élaborées, mais là, ce qui est quand même très intéressant, pour un vignoble comme le Beaujolais, l'appellation beaujolaise où on est en monocépage, on n'aura l'appellation que si on cultive du gamay. C'est de regarder dans la famille du gamay si on trouve des gamays adaptés, résistants à la sécheresse, résistants au stress hydrique, à la chaleur, etc. Et donc, à la Sicarex Beaujolais, on a un conservatoire intravariétal, un conservatoire de gamay avec 1000 individus. Et nous, là-dedans, on regarde et on cherche avec des observations tout au long de l'année et puis des vinifications et des observations sur les vins, à sélectionner ceux qui sont le plus tardifs, ceux qui s'adaptent plus au contexte climatique. Alors, le sol est important pour s'adapter au changement climatique. Ce qui est important, c'est la quantité de matière organique qu'on va avoir. Et donc, en fait, nous, on recherche aussi avec ces fameuses techniques viticoles à apporter de la matière organique qui va aider le sol à, on va dire, s'aérer et à aider l'eau à s'infiltrer et à rester dans le sol tout au long de l'année pour pouvoir aider la plante à se nourrir en période de forte chaleur. Donc, cette matière organique, elle est très importante et on peut l'apporter par différentes manières, en laissant par exemple un peu d'air, en mettant des engrais verts qu'on détruit ensuite, en apportant des fumiers ou autre.
Ce qui veut dire en fait qu'aujourd'hui, le paysage, le patrimoine paysager du Beaujolais peut effectivement changer.
Oui, le paysage va changer aussi, mais parce que la vigne, elle est quand même très victime de ce changement climatique aussi. Donc on va aussi voir des parcelles qui vont ne plus arriver à produire suffisamment. Et on peut peut-être aller rechercher, tout en restant dans l'appellation beaujolaise, des terroirs et des territoires qui peuvent être un petit peu plus en altitude aussi. En altitude, on va avoir de la fraîcheur. On va aller chercher un terroir peut-être qui permet de garder plus de matière organique.
C'est quel genre de race de moutons ?
Il y a des bisets, il y a quelques tonnets marteaux comme celle qui remonte là. On a la laine plus longue et juste le nez et les oreilles noires.
Ouais. C'est des races françaises ou c'est des
oui.
races ouais.
La bisée, c'est le massif central. Tonnet marteau, Savoie. Quelques manèches aussi qui sont des Pyrénées. Et des mourets rousses qui sont un peu comme elles, mais marron. Et comme celle qui a le point vert sur les fesses, là, qui, ouais. Hop, qui nous regarde.
Ouais. Et il y en a une magnifique là.
Qui est une race des Alpes-Maritimes.
Bonjour.
Bonjour. Il y a combien de bêtes, hein, de moutons ?
Et ben là, il y a 260 bêtes adultes et 80 agneaux. En fait, on est éleveur de brebis. On élève des brebis pour élever des agneaux. On vend de la viande d'agneau. Et nous, notre objectif, on est en agriculture biologique. Et notre objectif, c'est de nourrir les animaux toute l'année dehors avec de l'herbe. Donc du coup, on est, on est itinérant. On va là où il y a de l'herbe. Et puis c'est un bon échange avec les viticulteurs qui sont contents d'avoir le coup de nettoyage. Ça apporte un peu de fumier. Et elles ont fait une journée. Et c'est Yannick qui les a mis hier. En principe, tous les jours, on change de parcelle ou tous les jours, on agrandit. Pour qu'elles aient tous les jours un repas neuf.
Un petit hectare, par exemple.
Un petit hectare, d'accord. Et donc là,
aujourd'hui, on commence le retour sur un pleu-puits, là.
Vous m'avez dit combien de bêtes?
260 adultes et 80 agneaux. Ouais. Ouais. Et ben en fait, elles naviguent entre les vignes l'hiver, donc les terrains autour de la bergerie sur Amplepuy, le lac des Sapins, le tour du lac des Sapins et le massif des Landes du Beaujolais. Ouais, ça a commencé l'année passée. Ouais.
C'est ça, voilà. Mmh.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis du coup, on a fait ça aussi parce que moi, jusqu'à présent, j'étais seule sur la ferme avec mon troupeau. Yannick était éleveur de brebis, lui, dans le sud de la France, dans le Var. Et du coup, pour se rapprocher, pour qu'on puisse être ensemble et travailler ensemble, et ben, il fallait trouver plus de pâture pour les moutons. Et Yannick, dans le sud, avait l'habitude de fonctionner comme ça. Donc on a proposé ça au départ à Florence Subrin, à Crédebine, à Sarcey, qui était ravie. Et donc l'année dernière, on a débarqué avec une centaine de brebis pour faire un essai. Et puis ça a fait effet boule de neige chez tous les vignerons et personne ne voulait qu'on reparte avec les brebis. Bon, après, on n'a pas cherché plus que ça. Et après, vu que nous, on se déplace à pied, il faut que ça reste une continuité pour faciliter le déplacement du troupeau. Quoi. Voilà, on vient à pied dans le puits et après, on passe de vigne à vigne à pied avec le troupeau. Donc, il faut que ça ait une logique géographique.
Ouais. Belle balade quand même. Hein.
Ouais.
En 3 jours, on va faire presque 30 km.
30 km, vous me dites, hein. D'accord, ouais. Très bien.
On marche à 3 km/h avec les brebis, pour que tout le monde suive tranquillement et pour qu'elles mangent aussi tout au long de la marche.
Vous avez un chien, non, pour vous aider ou vous êtes
Ouais, on en a. Bah là, dans le camion, il y en a 3. Donc souvent, il y en a au moins un devant et un derrière. Un devant pour freiner le troupeau et pour pas qu'elle me double. Souvent, c'est moi qui suis devant. Et puis un derrière pour être sûr que voilà, tout le monde suive comme il faut. Il faut que ça soit intéressant pour nous aussi et pour le pâturage des brebis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient les brebis justement avec le terme éco-pâturage et du coup nettoyage de terrain. Il faut savoir qu'une brebis, ce n'est pas une débroussailleuse, elle ne mange pas tout. Et nous, il faut que ça soit de suffisamment bonne qualité pour subvenir à leurs besoins. Parce que là, il y a des brebis gestantes qui vont mettre bas d'ici 15 jours les premières. Il y a des agneaux en croissance. Et donc on nettoie le terrain en quelque sorte, mais surtout on nourrit notre troupeau. Quoi. Donc ça aille dans les deux sens. Quoi. Bah nous c'est Gaël et Yannick et la ferme de La Belle Colline à Amplepuy.
Audrey Tchéberry, je suis coprésidente de l'association Demain, c'est ici et maintenant. Et je suis plus particulièrement attachée à la question de l'agroécologie sur laquelle nous œuvrons dans l'association. Le vivant, c'est un ensemble, je dirais que c'est l'intégralité de notre écosystème terrestre, au final, dont nous faisons nous-mêmes partie. Donc le vivant, ça touche au final les sols, ça touche l'eau, ça touche également l'atmosphère, puisque de nombreux organismes vivent dans ces différents milieux. Voilà, et puis une chose qui est très importante, je pense, nos scientifiques le pensent aussi, c'est que le vivant, on en fait partie, on fait partie de ces écosystèmes intégralement. Voilà.
En gros, c'est la vie.
La vie,
le vivant, c'est la vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est, pour chaque espèce vivante, c'est naître, se développer, croître, et puis dépérir, et enfin mourir. On a tous la même ligne, j'allais dire, en quelque sorte.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est l'intégralité de ces interactions. Et puis, il y en a une qu'on oublie très souvent, c'est que quand on meurt, il y a aussi une partie recyclage qui permet une renaissance derrière d'autres organismes notamment. Et c'est l'éternel cercle du vivant qui est sans cesse en recyclage d'ailleurs. Le système actuel nous amène aujourd'hui justement bien souvent à nous sortir du vivant, à nous extrapoler de cet écosystème. L'idée, c'est de se rapprocher effectivement de la nature, de ce qu'elle est.
De la comprendre.
De la comprendre. C'est aussi elle qui nous a créés. Donc de comprendre ces mécanismes finalement de fonctionnement qu'on a trop tendance souvent à mettre de côté. Donc de ce côté-là, vous avez raison, il y a un retour aux essentiels. Néanmoins, on n'a jamais eu autant de connaissances scientifiques qu'aujourd'hui. Ces connaissances s'accélèrent, notamment sur la partie botanique, les sols, la manière dont fonctionnent ces écosystèmes. Et ceci, c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment du progressisme, des connaissances qu'on acquiert maintenant et qui s'accélèrent. Oui, alors on va aborder le thème des sols, forcément les thèmes de l'agriculture, la désertification également, le cycle de l'eau, les plantes, la botanique, les plantes bio-indicatrices qui permettent notamment d'effectuer des diagnostics de sols et de comprendre leur évolution, d'où ils viennent et où ils vont, où ils nous emmènent, mais également de quoi ils sont composés, par quoi ils ont été influencés, par notamment des métaux lourds, par exemple, liés à nos activités, etc., ou leur dégradation. La désertification se voit aussi à travers les plantes indicatrices. Aujourd'hui, on retrouve des plantes, notamment sur nos sols, et sur nos sols viticoles, qui viennent d'Afrique du Nord.
Je suis Jean-Christophe Pellerin, vigneron à Saint-Sur-l'Ambugey, sur 4,5 hectares de vignes. Voilà. On fait des blancs, des rouges, des rosés, des bulles en blanc, en rosé, du jus de raisin, du mar. Voilà, on diversifie. Alors on a des cépages locaux comme l'Altesse en blanc, la Mondeuse également. Mais après, maintenant, on a la porte ouverte, on s'amuse à planter plein de cépages. C'est-à-dire qu'en blanc, actuellement, j'ai Chardonnay, Aligoté, Altesse, Roussanne, Sauvignon, on va bientôt planter de la petite Sainte-Marie, de la Mondeuse blanche, vous voyez, c'est très diversifié. Puis en rouge, on a Gamay, Pinot Noir et Mondeuse qui sont assez classiques chez nous. Et on va replanter cette année du Persan et du Merlot également. Et les lots qu'on fait, les tirages, ça va de 200 bouteilles à 3000 bouteilles pour les plus grosses cuvées, quoi. Voilà, donc la biodynamie, j'ai fait le choix de travailler comme ça en 2008, on va dire. Enfin, le choix, c'est plutôt par curiosité que j'ai découvert ça. J'ai fait une conversion en bio et j'ai commencé à travailler en bio avec des plantes. Ça m'a permis de diminuer le cuivre et le soufre qu'on met sur les vignes, quoi. Et suite à ça, la première formation, c'était chez Eric Potiot dans le Pays de Gex. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient là-bas, d'autres vignerons. C'est déjà des personnes en biodynamie. Donc la biodynamie, il y a trois choses dans le cahier des charges, si on peut dire. Après, on peut aller beaucoup plus loin, mais au minimum, c'est l'utilisation des plantes dans les traitements. C'est la connaissance et le respect des calendriers planétaires, on va dire, plutôt que lunaires, parce qu'il y a plein de planètes. Et c'est également le passage des préparations biodynamiques sur les parcelles, enfin à la vigne ou sur le sol. Voilà. C'est des agriculteurs qui sont aperçus que les cultures, tout ce qu'ils produisaient, c'était de qualité de moins en moins bonne et il y avait de plus en plus de problèmes de maladies. Au niveau des traitements déjà sur les vignes, on a droit à deux fois moins de cuivre, c'est-à-dire qu'on a droit de mettre 3 kg de cuivre métal sur les vignes par hectare et par an en biodynamie, alors qu'on a droit à 6 kg en bio. Et au niveau ensuite du cahier des charges vinification, on est aussi également plus limité en intrants, surtout sur les doses de soufre, enfin, qui à mon avis sont encore beaucoup trop laxistes, parce qu'on est à 70 mg en rouge, je crois, 90 en blanc. Moi j'arrive à travailler entre 10 et 20 mg sans problème, quoi. On travaille vraiment sur le vivant, c'est-à-dire qu'on va stimuler le sol avec des préparations biodynamiques, en fait. Voilà. Si vous avez plus de vie microbienne dans un sol, vous avez vraiment le terroir qui est révélé, en fait. Et ensuite, donc on stimule cette vie du sol avec des préparations, on appelle ça la 500 ou la 500P, donc c'est de la bouse de corne ou bouse de corne préparée. Et on passe également de la silice, donc c'est de la 501, c'est de la silice de corne. Et ça joue vraiment, disons qu'en début de saison, ça renforce le végétal, donc les vignes contre les maladies et champignons. Et quand on passe avant la récolte, 2-3 semaines avant la récolte, ça joue vraiment sur la concentration au niveau aromatique des raisins, ça sert d'antipourriture. Et après, on laisse faire le jus de raisin à la cave, c'est beaucoup plus facile le travail en cave derrière, quoi. On laisse faire, en fait. Au niveau vinification, on rentre, disons qu'on fait du vin avec du raisin. Point. Voilà.
referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour.
Donc Romain Dobrin, et je suis viticulteur du coup depuis 2 ans.
Alors jeune viticulteur, j'ai l'impression.
C'est ça, oui. Donc j'ai arrêté, avant j'étais pompier professionnel à Lyon.
Une reconversion donc.
C'est ça, oui. Et du coup je reprends la suite de mon père. En restructurant les vignes, du coup mon père était planté en moyenne avec des rangs plantés à 1m30 et moi je suis planté à 2m. Et je suis passé en bio là depuis l'année dernière. C'est pour simplifier le travail. Parce qu'en bio du coup on n'utilise pas de désherbant. Et du coup pour travailler les sols c'est beaucoup plus simple. Donc coopérateur depuis 2 ans. Bah, en crément, en bourgogne blanc, en beaujolais blanc aussi. Ouais. Donc voilà, et ici là c'est des plants qui sont en pinot noir.
Et vous êtes tout en coop, hein, c'est ça?
Tout en coopérative, oui.
On va aller voir peut-être si les saisonniers, s'ils ont envie
Oui, il y a des retraités, il y a des saisonniers, il y a mon papa qui est là.
Papa, il doit être fier, là, le
fin. Surtout que c'est dans ses dernières récoltes aussi, il lui reste encore un petit peu de vigne.
C'est bien, on va lui dire bonjour au papa, ouais. Alors. Allez, on va aller voir la transmission. C'est le jarlot, c'est ça? Vous faites le jarlot, oui, c'est ça?
C'est le père et le jarlot.
Alors c'est de la transmission, là, c'est chouette ça.
Oui, c'est de la transmission, ah, oui.
Ça vient depuis 2 ans?
Depuis 2 ans, oui, et ça va être pour moi la 3e génération.
3e génération de viticulteurs.
On est arrivé dans les années 60.
Alors vous n'avez pas toujours fait du crément, j'imagine?
Non, on a commencé par des beaujolais. On faisait même que des beaujolais rouges. Après, on a commencé à faire des beaujolais blancs et des bourgognes blancs. Et après, on est parti sur le crément.
Pourquoi le crément? Pour diversifier?
Oui, pour diversifier, et puis c'était porteur surtout. Le Beaujolais, on a eu quelques années un peu difficiles. Mm-hmm. Les gens ne reconnaissaient pas notre produit, qui était très bon. Et maintenant, ils le reconnaissent. Donc, on est très, très contents. Ça a changé depuis quelques années. On a pu leur prouver qu'on faisait des vins qui étaient très, très bons, légers, qui se buvaient assez rapidement, mais qui étaient très légers. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'on est arrivé à remonter la pente, et aussi avec nos rosés.
Allez, on va aller voir 2-3 saisonniers. Alors. Très bien. Hop là, je vais aller voir, je vais demander. Alors, pas trop mal au rein, ça va?
Non, là, c'est le premier jour, donc ça va.
Ah, ça
se passe bien.
Oui,
oui, oui.
Bon, vous êtes du coin?
Oui. Bon, ouais, ouais, ouais. Vous avez du même village.
Du même village. Vous avez l'habitude de vendanger ou c'est une première?
Ouais. Non. Ça fait 6 ans que je fais ça, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai 23 ans, j'ai commencé jeune.
Et vous aimez?
Oui. Je pense que c'est l'aspect convivial, c'est les paysages. C'est le fait de, je sais pas, de participer à la création du Beaujolais aussi, ouais. C'est tout ça. Il y a un aspect familial, ouais, que j'aime bien.
Moi, c'est la première fois que je l'ai fait ici, mais l'ambiance est plutôt bonne, donc ça fait plaisir. Je l'ai faisé ailleurs avant, mais quand on est enfant du Beaujolais, je pense qu'on commence jeune. Et
je viens par amitié, parce que moi, mon mari était aussi viticulteur. Par soutien, parce que quand j'étais jeune, j'allais vendanger.
Oui, c'est pour l'ambiance.
Donc, puis j'aimais.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur.
Je vais donc ouvrir le 236e chapitre exceptionnel de l'Ordre des Compagnons du Beaujolais au Théâtre de Villefranche en l'honneur de François Morel. Je vais tout de suite donner la parole à notre grand chambellan qui va vous dire qui nous sommes.
Nous sommes les Compagnons du Beaujolais et comme les ouvriers des métiers de jadis, nous nous rallions à un devoir. Ce devoir est, sur ce coin de terre de France, de nous faire une âme commune pour recueillir et conserver la sève puissante de son passé. Faire connaître la beauté de ses sites, la grâce de ses collines, à l'assaut desquelles montent en rang serré les bataillons du Gamay au Beaujolais des Sapins. Garder les lieux où a soufflé l'esprit, celui de la liberté, avec Madame Roland la Girondine. Pour cette liberté, perdit la tête sur l'échafaud. Celui de la science, avec Claude Bernard, de Saint-Julien-Beaujolais, le créateur et pasteur de la médecine contemporaine. Celui de la recherche, patiente, avec Benoît Raclet, au pied du moulin à vent, ou Victor Puyot à Chirou, tous deux sauveurs de nos vignes. C'est promouvoir le produit de nos vignes, en proclamant que le cœur le plus sec s'attendrit et fleurit à la divine rosée d'un Beaujolais clair et fruité. Ce Beaujolais, dont le nom et la robe dansent sur toutes les scènes du monde. Les compagnons, c'est aussi honorer nos camarades vignerons qui peinent durement dans les vignes. Alors, vous allez entrer dans notre confrérie. Vous y trouverez le vin généreux, la fraternité et surtout l'amitié. Comme le proclamait Léon Foyard, « Ô frère, entends notre prière. Si dans l'amitié tu te plais, enrôle-toi sous la bannière des compagnons du Beaujolais. » Et alors, comme nous, avec nous, vous pourrez crier la fière devise de nos aïeux, « Vidons les tonneaux !»
Je crois que c'est la première fois que je suis intronisé dans une confrérie comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement sympathique, joyeux. Et puis en même temps, c'est un bout de la culture de ce pays-là que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai évoqué Maurice Baquet parce que j'avais eu la joie de le connaître et de jouer avec lui il y a une trentaine d'années. Et c'est un monsieur qui m'avait tellement impressionné par sa gentillesse, par son humour et par sa culture. Et c'est à lui que je pensais en me faisant introniser aujourd'hui. C'est pas mal d'être de quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas sourire sur le monde, mais être d'une région, être d'une terre, d'un pays, c'est aussi faire partie de l'humanité d'une belle façon.
Merci beaucoup. Merci
à vous. Je m'engage devant Saint-Vincent à me conduire en fidèle et franc compagnon du Beaujolais et à en pratiquer les vertus. Mon devoir est d'aimer mon pays, de travailler au maintien de ses traditions d'hospitalité, de sagesse et de bonne humeur. De faire connaître la beauté de ces sites et l'intérêt qui s'attache à ces vieilles églises, à ces châteaux anciens, témoins de son passé, durant lequel a soufflé l'esprit de ses artistes et de ses compagnons maîtres d'œuvre. D'apprécier et de propager les produits de nos vignes. Ça va aller. D'honorer enfin ces rudes vignerons qui, par leur vaillance, font la prospérité et la renommée de la patrie beaujolaise.
Très bien. Bravo. Merci. Et alors, merci. Levez la main et dire je vous jure.
Je jure.
Plus fort, on n'a pas entendu.
Je le jure.
Bien, monsieur Morel.
Anastasia Criticou du domaine de Romarin à Quincy-en-Beaujolais.
Frédéric Berne, je suis vigneron à Lantigné depuis 2014 en fait. Oui, vigneron et terroir de Lantigné, on l'a créé en 2017. On a un engagement en fait sur le territoire où on voulait développer à la fois une viticulture durable et à la fois unir nos forces en fait, notamment dans la transition agroécologique. Donc Lantigné, on est entre Beaujeu et Régnier, c'est à peu près à 35 minutes au nord de Villefranche-sur-Saône. On a une bonne empreinte viticole on va dire sur le territoire. Environ 320 hectares de vignes sur le village. En fait, on s'est imposé des contraintes de production, justement dans l'optique d'une agriculture durable. On a un point fort qui est de bannir les pesticides de synthèse, en fait, de notre cahier des charges. Donc, cette contrainte fait qu'on arrive à produire différemment.
De mettre en valeur notre terroir, mais avec des valeurs agroécologiques.
L'idée, c'est de produire de façon durable, c'est-à-dire recréer des écosystèmes, en fait, favorables à la vie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de terres désertifiées, en fait. On voit le désert qui s'agrandit. Et justement, c'est le fait qu'on ne plante pas assez d'arbres, pas assez de haies, qu'on ne prend pas assez soin de nos terres. Et nous, l'idée, c'était d'essayer de revenir, en fait, sur des notions d'agronomie, en fait. Donc vraiment le soin de la terre, tout en produisant, en fait. C'est pas la production avant tout, c'est la production tout en respectant l'écosystème. Et c'est ce qu'on défend à travers nos principes, oui, d'agroécologie.
Défendre la biodiversité, et lui permettre de regagner de l'espace, en fait.
En fait, on a plusieurs façons de s'occuper du vivant. Soit on attend que ça aille mal et on utilise des antibiotiques. Soit on peut faire en sorte de stimuler les défenses naturelles. Et du coup, c'est deux pratiques assez différentes. C'est plutôt proche d'une médecine chinoise qu'une médecine occidentale, en fait, l'agroécologie.
Vous avez dit retrouver la biodiversité. On le sait, hein, le Beaujolais a été pendant des années et des années aux mains du productivisme. Alors comment, effectivement, petit à petit, on se réapproprie, enfin, comment la nature revit?
Oui, nous on essaye de mettre en place par exemple un herbement et puis même planter des arbres. Donc on essaie de sortir du sol lunaire encore dans une grande partie du vignoble.
Pendant des années, on a demandé à l'agriculteur de produire sans forcément se soucier de l'écosystème. On va dire que les normes étaient là pour protéger l'écosystème et que le producteur, lui, il était là pour faire un produit bon et pas trop cher. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le bon et pas trop cher, ok, ça existe, mais quel est le coût au final sur notre écosystème ? On a envie de laisser des terres fertiles à nos enfants. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on désertifie, donc qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et c'est un peu toutes ces questions, un peu ce cheminement qui trotte aujourd'hui dans la tête de nous en tant que nouvelle génération.
Nous avons été sollicités par l'association Slow Wine, qui nous ont proposé un échange avec un groupe allemand. Ce week-end, on accueille 6 viticulteurs allemands qui partagent les mêmes valeurs. Ce sera un week-end d'échange sur nos pratiques, sur nos méthodes agricoles, mais aussi vinicoles. Voilà. Et puis un échange sur les problématiques que les viticulteurs rencontrent partout, en fait, à l'international. Mm-hmm. Ils ont les mêmes pratiques que nous, en fait, en termes d'agroécologie et même réduction des intrants dans les vinifications. Donc, voilà, on va discuter de tout ça tout en visitant le vignoble, nos caves, nos parcelles.
Nous, ce qui nous a plu, en fait, à travers tout ça, c'est que on ne s'est pas concerté et au final, on se pose les mêmes questions en fait à des endroits différents du globe. Aujourd'hui, on est tous un peu main dans la main pour essayer d'aller de l'avant. On a un peu tous la même vision, c'est de se dire aujourd'hui, on entend à la radio ou à la télé que beaucoup de choses vont mal. Ben, nous, on n'a pas envie d'attendre que ça aille encore plus mal. On a envie de se prendre en main et de s'unir en fait avec des personnes de différents pays, de différentes cultures, pour essayer de trouver des solutions, pour avoir des terres fertiles, pour retrouver une biodiversité équilibrée. Pour nous, c'est un défi plus qu'une crainte, j'ai envie de dire. L'idée, c'est pas de vivre dans un climat de peur, c'est de vivre dans un climat optimiste où on cherche des solutions. Il y a des hauts, des bas, mais on avance et petit à petit, on arrive à faire des belles choses.
Oh là là, trop zinzin d'aller couper du raisin.
Donc je suis Sarah Vaz, je suis chargée d'ingénierie pour la formation adulte et plus particulièrement responsable du brevet professionnel viticulture au sein du lycée agricole, qui est à destination des adultes.
Donc le lycée agricole de Sibens, hein, voilà.
Une formation à destination des publics qui veulent se former en viticulture et qui veulent devenir ouvriers agricoles. Donc une formation longue, donc à peu près un an de formation pour maîtriser l'ensemble du cycle de la vigne et du vin. En fait, nous, on a une section formation, ce qu'on appelle initiale, qui est effectivement pour les élèves, et une formation adulte qui est accessible à partir de 18 ans pour des publics qui ont envie de se reconvertir, qui savent qu'il y a du travail dans ces métiers-là et qui, du coup, ont envie de s'orienter, qui ont envie de, voilà, d'acquérir des compétences dans d'autres secteurs que ceux sur lesquels ils ont été formés plus jeunes. Alors, le métier d'ouvrier viticole, il se situe en fait vraiment en proximité avec l'exploitant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des exploitants viticoles assez nombreux sur le Beaujolais qui ont besoin de main-d'œuvre qui sont saisonnières. Mais de plus en plus, on a des besoins sur des emplois plus longs, en fait, tout au long de l'année. Donc ces exploitants ont besoin d'embaucher des ouvriers viticoles qui soient des ouvriers qualifiés, qui ont des compétences importantes sur l'ensemble de la gestion de la vigne. Donc il y a des différents métiers sur la gestion de la vigne, mais aussi sur la partie vinification, voire même commercialisation du produit. Alors nous, la formation, on l'a fait se dérouler sur la même saisonnalité que l'activité réelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas des cours en salle enfermés pendant 8 heures. Ce n'est pas possible pour des adultes, déjà. Et puis, ce n'est pas réel par rapport aux besoins de la profession. Donc cette formation, on l'a co-construite en fait, avec les partenaires de territoire, avec la Chambre d'agriculture, les groupements d'employeurs, la Maison de l'emploi et de la formation et le Pôle emploi. Et on l'a fait se dérouler en fonction des saisons. C'est-à-dire que là, on va démarrer sur les travaux en verre. Donc concrètement, on aura une partie de cours qui se déroulera le matin en salle, où on va être plutôt sur de la théorie, sur de la passation de connaissances, sur de l'analyse biologique, sur des choses plutôt théoriques, je dirais. Et la partie après-midi sera plutôt sur l'exploitation pédagogique, puisque du coup, on a une exploitation pédagogique avec des vignes, avec un laboratoire, avec un centre de dégustation. Et en plus de ça, on a a vraiment un vrai besoin par rapport à de la mise en pratique réelle, pas que sur de l'exploitation pédagogique. C'est la raison pour laquelle les stagiaires de la formation professionnelle continue, puisque c'est comme ça qu'on appelle les adultes qui suivent cette formation, seront 2 jours par semaine en exploitation réelle avec un tuteur de stage, donc un véritable exploitant agricole, qui va leur donner des tâches à réaliser et qui va leur permettre de mettre en application ce que nous, on va leur apprendre. Donc, on sera sur des travaux en verre sur la période qui arrive, la première. Ensuite, on sera sur toute la préparation de la vendange. Ensuite, à partir de l'automne, on sera sur la vinification. Et entre-temps, on aura également des apprentissages sur le machinisme, sur la réduction des intrants, sur la certification à la mise en application de produits phytosanitaires. Donc on est vraiment sur la maîtrise de tout ce que doit connaître en fait quelqu'un qui veut travailler sur une année complète sur une vigne.
Parti tôt le matin dans la brume après un joint, on a rejoint les copains pour aller couper du raisin. Couper du raisin.
Yannick Debrun, vigneron à Frontenat, coopérateur à Odoria. J'ai presque 5 hectares et demi de crémant, donc on est obligé de faire la main. Donc là, on a pris un peu plus de personnel sur un peu plus de temps. Plus de personnel à la journée quand on a pu trouver. Quand ils ont pu rester, c'est plus compliqué. Et après, on va attaquer les Beaujolais à la machine en danger tranquillement, en gardant la maturité des raisins pour pouvoir faire avoir un peu moins de personnel. Quoi. Alors, on a nourri, on en a eu à la grande journée, qui a amené leur repas. Les créments de Bourgogne, on a une obligation d'appellation de ramasser à la main. Donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on ramasse avec le personnel. Donc, on a Chardonnay, Pinot, Pinot Gris et un petit peu de Gamay en crément. Et après, donc les Gamay, on a la possibilité de les faire à la machine. Et comme on a un parcellaire qui va, et plus on a une machine en coopérative, donc en Cuma, plusieurs, donc on a commencé à attaquer chez un autre adhérent. Et là, on va attaquer demain ou en fin de semaine chez moi pour faire ramasser les vendanges, quoi.
Combien de personnel, en gros, vous avez quand même à gérer?
Alors, cette année, on part sur une base de 16 employés. Et cette année, j'ai dû faire à peu près 35 TESA, 35 contrats vendanges, parce que les gens sont restés qu'une seule journée. Alors, on a eu la période aussi, il y a de grosses chaleurs. Il y a une semaine, il faisait 35 l'après-midi.
C'est la machine à vendanger qui est en train de revenir. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Ouais. Et alors, au niveau personnel?
Donc là, c'était compliqué, le personnel. Beaucoup ont fait qu'une seule journée. Donc il a fallu faire pas mal de contrats pour la semaine des vendanges. Bon, on est arrivé à finir quand même. Voilà, donc là on va reprendre à la machine. Ça fait une semaine qu'on a fini à la main. Une semaine, on va attaquer en fin de semaine la machine en danger. Et après, pour une semaine, 10 jours suivant la maturité des raisins.
Alors justement, j'en viens maintenant au côté sanitaire plutôt, mais de la vigne. Comment ça s'est passé? On sait que ça a souffert quand même un petit peu d'eau, non peut-être?
Alors, on a souffert cet été, mais on a eu la chance par rapport à d'autres collègues, c'est qu'on a pris une vingtaine de millimètres, 25 millimètres il y a une quinzaine de jours, qui ont fait que les vignes ont repris de la vigueur.
Fait de la différence, vous voulez dire?
Ah oui, au niveau qualité, enfin surtout quantité, par rapport à des collègues qui sont sur des rendements beaucoup plus bas dans certains secteurs. Quoi.
Sur votre tracteur?
C'est pas la mienne de remorque, c'est celle d'un collègue, mais il a marqué comme quoi les réglementations, il en avait plein le fion.
Et vous aussi?
Tout le monde.
Ouais.
C'est une collègue générale, un ras-le-bol général, voilà, de l'ensemble du monde agricole. Après, voilà, il y en a qui l'ont écrit, d'autres qui l'ont pas écrit, certains qui sont venus en tracteur, pour ceux qui sont plus loin en voiture, mais dans l'ensemble, c'est un gros ras-le-bol général.
Très bien. Et vous êtes agriculteur également aussi?
Ouais, sur le secteur de Meximieux. Et c'est pareil, quand on commence en plus comme ça, c'est d'autant...
Vous êtes jeune, oui, vous commencez, vous?
Voilà, c'est ça fait 2 ans que je suis installé et c'est d'autant plus compliqué. C'est ça, des frais et toujours plus de réglementation, des normes sur des normes sur des normes, et faut être plus blanc que blanc, et plus on fait ça bien, plus on... on nous remet des normes, donc on s'en sort jamais. Ah non, nous, enfin, on est résistants. Pour ma part, j'ai toujours été là-dedans. Mon père, ça fait 35 ans qu'il est installé et je ne me vois pas faire autre chose. Donc, quoi qu'il arrive, on fera tout pour rester là.
Il y a de l'ambiance. Hein.
Bah, il faut. Hein.
Fabienne. Bah nous, en fait, notre souci, c'est point de vue de rémunération. Et puis, c'est vrai qu'on a bien assez de normes sur la tête. On nous en met toujours un peu plus. Lui, malheureusement, tant que j'aurais pas vu les faits et arrivé dans nos cours, vraiment ce qu'on nous promet, eh ben, on n'y croira pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on nous a vraiment vendu du rêve. Et il faut vraiment que les choses, elles bougent. Parce que nous, mine de rien, on se lève quand même tous les jours hein, pour aller travailler. On est 365 jours sur 365 jours au travail. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes acculés. On peut même plus sortir de salaire à cause de toutes nos surcharges aussi administratives. Et puis, à force de nous vendre du rêve et puis toutes les aides qu'on va avoir et qu'on voit jamais arriver dans nos cours, aujourd'hui c'est un ras-le-bol et on veut plus de promesses, on veut vraiment des actes cette fois. Il y a de quoi être très en colère parce que mine de rien, on se fatigue physiquement et moralement et à un moment donné, le moral il lâche et puis il y en a beaucoup qui craquent. On est quand même une profession qui est en souffrance et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il entretient le paysage aussi, donc le jour qu'il n'y aura plus personne, il y aura quand même des gros soucis je pense. Hein.
Vous êtes à perte sur votre exploitation?
Ah oui, largement. Nous aujourd'hui, je peux pas vous cacher, hein, ça fait 6 ans qu'on sort plus de salaire hein, avec mon mari.
Sébastien Cargul, et je suis vice-président de l'interprofession du Beaujolais. Bah, la crise que connaît aujourd'hui le monde viticole dans sa globalité, et comment se situe le monde du Beaujolais à l'intérieur même de cette crise-là. Et ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est que le Beaujolais a la chance, par les actions qu'il a entamées il y a un certain nombre d'années, mais aussi par le fait que historiquement il produit des vins qui sont en phase avec aujourd'hui les tendances du marché, a la chance de bien amortir en fait les impacts de la crise qu'on rencontre aujourd'hui. Néanmoins, ce que je souhaitais souligner, c'est que malgré le fait qu'on arrive à amortir les impacts de cette crise, on est quand même en plein dedans et depuis 2-3 ans, on souffre d'une baisse conséquente de nos ventes. Alors on parle de 7 à 8% de ventes en moins depuis 2-3 ans, mais malgré tout, ce sont des ventes qui sont non négligeables et qui ont derrière des conséquences pour l'ensemble de nos exploitations, de nos maisons de négoce, parce qu'aujourd'hui, on a des vins qu'on n'arrive pas à vendre, donc des stocks que l'on porte, des investissements que l'on ne peut pas faire et des résultats qui commencent à être suffisamment négatifs pour... on va dire, engager peut-être aussi la sauvegarde économique de certaines de nos exploitations. Il y a des vraies questions qui se posent aujourd'hui, il y a des structures de toute taille qui commencent à avoir des problématiques de défaut de paiement de plus en plus compliqués auprès de leurs fournisseurs. On a le sentiment tout de même que dans les mois à venir, pour le Beaujolais comme pour d'autres régions, mais pour le Beaujolais en particulier dont je m'occupe, on risque d'avoir... Alors je parlais d'une évolution du paysage viticole, parce que je pense qu'on risque d'avoir un certain nombre d'exploitations qui vont arrêter. Un certain nombre d'exploitations, des maisons de négoce qui risquent aussi d'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est la trésorerie. Et la trésorerie, elle est de plus en plus ténue dans les exploitations. Alors, il y a une forte concurrence depuis de très nombreuses années, mais l'année 2024 a été la première année en termes de consommation mondiale où on a consommé autant de vin que dans les années 60, alors qu'on avait progressé depuis les années 60 jusqu'à atteindre des pics au début des années 2000, notamment avec l'avènement des pays émergents qui s'intéressaient nouvellement au vin. Et on est retombé assez brusquement. Et donc, ça veut dire que toute cette concurrence qui vivait, on va dire, de façon à peu près équilibrée jusqu'à présent, bah aujourd'hui, il y a des dégâts assez importants. Nous, nous le ressentons aussi. Donc, c'est vraiment une baisse de la consommation mondiale, mais qui s'explique. Alors, on a parlé de problématiques géopolitiques, mais si on regarde juste le marché français, on a une baisse de la consommation parce qu'on a une mutation des modes de consommation, des transformations assez lourdes qu'on n'a pas forcément non plus tout à fait anticipées, mais qui nous portent préjudice. Et on a aussi, depuis quelques mois, quelques années, on va dire une forme d'ambiance anxiogène que l'on constate à travers ces populations, cette population française qui a tendance à épargner plus qu'à consommer. Et le vin reste un produit plaisir de consommation. Et de fait,
devient un luxe.
Alors ça devient un luxe, oui, ou tout du moins, en tout cas, ça devient un produit plaisir dont on accepte de se passer parce qu'on n'ose plus consommer. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de consommer, parce qu'on n'ose plus consommer par rapport à une insécurité dans l'avenir que l'on ressent et qu'on ressent particulièrement en France. Et le vin en pâtit de fait, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, ça s'illustre par des impacts directement assez brutaux dans nos exploitations Et notamment en Beaujolais, où les équilibres sont quand même relativement précaires. Les équilibres financiers sont très, très précaires. On ne fait pas partie de régions viticoles qui sont en moyenne plus sereines économiquement. Nous, on reste un équilibre toujours très précaire.
Je suis Céline Vernu, vigneronne à Saint-Étienne-la-Varenne depuis une trentaine d'années, coprésidente de l'association Elle et Beaujolais avec mon amie Béatrice qui est à côté.
Béatrice Merle, je suis œnologue au vin Georges Duboeuf à Romanèche-Torin. Nous, on regroupe des vigneronnes, donc des œnologues et aussi des personnes qui travaillent dans le tourisme.
Elle et Beaujolais, c'était d'associer les femmes aux horizons professionnels différents, mais toujours avec cette affection pour le territoire Beaujolais et pour le vin. Aujourd'hui, on essaye d'éduquer les jeunes, les plus jeunes. On essaye de susciter certaines vocations chez les jeunes. Elle et Beaujolais, en 2019, a créé un kit pédagogique à destination des enfants de CP et CE1. Mais l'éducation ne s'arrête pas aux petits. L'éducation, c'est tout un programme. Alors, l'éducation par la transmission, hein, il y a la transmission, bien sûr, de fait, quand il y a une reprise d'une exploitation viticole, mais la transmission, comme vous dites si bien, par l'éducation. L'éducation, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire transmettre nos métiers. Dans la filière vin, il y a beaucoup de métiers, parfois qui sont méconnus. La transmission, ça passe par toucher les jeunes, pas que les jeunes femmes, hein, puisque même si l'association est composée uniquement de femmes, hein, j'entends au Cercle National Femmes de Vin et au sens d'Elle et Beaujolais, l'éducation touche les filles comme les garçons. C'est important de le souligner. Donc la transmission des métiers, quand l'association Elle et Beaujolais a été créée en 2014, on assistait déjà à une pénurie de main-d'œuvre dans nos vignes. Donc la transmission, c'est aussi dans ce sens-là, essayer de montrer qu'on a un très très beau métier, qu'il est dur, mais qu'on peut déboucher sur beaucoup de métiers, peut-être ignorés de certains.
J'ai envie de vous demander à toutes les deux, pourquoi cette passion du vin en tant que femme?
Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un domaine viticole. Oui, je pense vraiment, je suis vraiment attirée par ce milieu depuis toute petite. J'ai été très tôt au cuvage avec mon grand-père, ensuite aussi dans les vignes. Je me suis écartée un petit peu plus de la production pour le côté commercial, mais en fait, je suis très vite revenue aux sources et voilà, j'ai fait un BTS viticulture œnologie au lycée de Bel Air et après le diplôme national d'œnologue à Dijon. Et c'est vraiment ce côté dégustation, assemblage que j'aime beaucoup et toute la partie aussi analyse, qui conforte en fait souvent un petit peu les impressions de la dégustation.
Et vous ?
Alors moi, je ne suis pas du tout issue du milieu du vin.
Alors comment on y arrive ?
Justement. On va dire avec un double coup de cœur. Moi, je suis professeure d'allemand à la base. Donc je vais avoir 52 ans et il y a 30 ans, j'ai rencontré un vigneron. Donc je suis tombée amoureuse de vigneron et je suis allée l'aider dans les vignes. Et quand j'ai vu ce que représentait le travail de la terre, ça m'a attirée. Moi, ce qui m'a attirée, c'était de voir qu'à partir d'un bout de bois, un cep de vigne, on arrivait à une bouteille, à un moment de partage après avec des clients qui viennent vous voir, qui recherchent cette proximité avec vous, qui recherchent le cycle de la vigne. Moi, je m'émerveille toujours de voir cette vigne renaître chaque année. Avec ce métier, on a l'impression qu'on va jusqu'au bout de quelque chose. On crée, on est des artisans, en fait. Donc, on a une patronne qui s'appelle Dame Nature, qui n'est pas toujours sympa avec nous. Mais chaque année, c'est de l'adrénaline. Chaque année, on donne naissance à des vins. C'est un peu comme un accouchement. On donne naissance à un produit qu'on crée, en fait. Donc, moi, j'ai cette passion depuis une trentaine d'années. Je dirais que ça va même en grandissant avec les années.
Alors pourquoi pérenniser la culture du vin ? C'est une nécessité ?
C'est un art de vie à la française, le vin. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. Souvent à l'étranger, la France a la réputation d'être un pays riche en gastronomie, riche en vin. Donc je pense que ça fait partie de notre culture. Donc le pérenniser, c'est pérenniser notre patrimoine.
Thank you.
qu'on a une maturité qui est arrivée à plein. Et je pense qu'on aura un très très bon millésime.
Pour moi, c'est un beau millésime.
C'est très très beau là, ce qui se rentre. Je pense qu'on va avoir un très très beau millésime.
C'est un vin d'exception et de haut de gamme et de qualité quoi.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un millésime compliqué comme ça, on sait qu'on n'a plus les armes qu'on avait pu avoir il y a quelques années.
On fera quand même la fête pour le primeur.
Ah ben bien sûr. Et puis il sera très très bon. Pas de souci.
Merci à vous.
Merci.
Des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur. Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir d'autres territoires, rendez-vous sur aurafm.org.